Cet été, cinq films sont sortis qui nous ont particulièrement intéressés, à commencer par Office de Johnny To, qui nous est arrivé 2 ans après sa sortie en Chine, le 9 août dernier. Il y a une critique sur le site, mais on va pouvoir en débattre. Léla, est-ce que tu peux nous rappeler de quoi ça parle?
Alors, globalement, c'est un sujet qui est quand même assez original. C'est une comédie musicale sur le monde de l'entreprise, dans laquelle on suit principalement donc un jeune employé qui rentre en période d'essai dans une grosse entreprise, qui s'apprête à rentrer en bourse. Donc, il y a beaucoup d'agitation autour de ça. Et il rentre en même temps qu'une jeune femme, on le découvre assez vite, qui a plus ou moins été pistonnée. Et bon, il y a certaines intrigues aussi qui révolutionnent autour d'elle. Et voilà, ça va raconter d'une part sa progression dans l'entreprise, ses rapports avec ses différents supérieurs, la façon dont il va aussi être instrumentalisé par certains de ceux-ci pour voilà, servir des ambitions personnelles. Et à travers ça, on va avoir donc une vision qui est quand même assez sombre du monde de l'entreprise, où tout le monde voilà, essaie un petit peu d'avancer son rang, quitte à sacrifier les autres, protéger les manigances qu'il a pu formuler, mais malgré tout dans un ton qui reste assez sympathique, assez positif, donc les chansons aidant. Bon, voilà, on va un peu suivre ce personnage et voir comment est-ce que les différentes intrigues vont avoir des influences sur cette évolution de l'entreprise. Donc il y a à la fois un point de vue qui est très individuel donc, de ce personnage, mais toute la machine autour, et avec un discours sur bon, bah, l'entreprise capitaliste en général.
Vive la révolution.
Faut dire que formellement le film est assez particulier puisque c'est une adaptation donc d'une pièce de théâtre qui a été écrite par l'actrice principale
Sylvia Cheung.
Sylvia Cheung, tout à fait. Enfin, une des actrices principales d'ailleurs.
Mais celle qui joue la boche, enfin les pontes de l'entreprise.
Et en fait, Johnny To recrée des décors au sein de son film. Donc on est dans des décors factices qui créent une installation visuelle assez intéressante puisque ça fait que en fait, les murs n'existent pas et donc on voit les différents niveaux de l'entreprise et tout le monde peut voir ce que fait tout le monde. Donc ça rejoint cette idée de transparence en fait et du coup de potin qui se joue dans l'entreprise. Justin, est-ce que le film t'a plu?
Alors, ça m'a surtout plu au niveau du dispositif, justement, au niveau formel, cette architecture, cette profondeur de champ, en plus en 3D, c'était quand même assez intéressant. Par contre, ça raconte rien de neuf si on a vu tous les films récents ou même plus anciens sur le monde de la finance, soit Margin Call ou pour en remontant plus loin Wall Street, ou, on n'apprend rien, c'est vraiment convenu de ces convenus, même si bon, c'est une histoire, c'est autour d'un rachat. Enfin, la société veut entrer en bourse.
Et c'est en 2008, hein.
Oui, ça se passe juste avant la crise. Veut entrer en bourse, donc ils doivent avoir un audit avant cette entrée en bourse. Et on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont pas très claires dans l'entreprise. Il y a plus des gens qui des magouilles qui vont compliquer un peu cet audit et cette entrée en bourse. Bon, tout ça, c'est un peu du vu et revu, mais le dispositif. Le formel est quand même intéressant, les personnages sont intéressants. Par contre, les chansons, c'est le problème, c'est quand c'est une comédie musicale et qui semble sans chansons correctes, parce que là c'est quand même la soupe, la pure soupe.
Il n'y en a pas beaucoup du coup des chansons et les chorégraphies sont assez minimalistes, assez amusantes. Notamment au début, ça m'a fait penser, j'avais l'impression d'être devant une parodie d'un film propagande communiste, quand on voit le monde de l'entreprise, la manière dont c'est fait. Donc ça, c'est plutôt, ce sont des clins d'œil assez amusants de la part de
la. C'est dommage que voilà, les chansons ne servent pas le dispositif qui introjecte Tati. Enfin, il y a vraiment tout un travail. C'est très intéressant, mais malheureusement, voilà, c'est un peu desservi par le scénario qui est convenu et puis les chansons qui sont pas très.
Oui, là, je te rejoins aussi sur le scénario. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on passe sur des intrigues sentimentales entre les personnages. Quand on arrive au deuxième acte, à peu près, enfin, avant le dernier tiers du film où il y a la résolution, et c'est peut-être un peu moins intéressant que les intrigues plutôt financières.
Par contre, je vous fasse. Toujours pour il est dedans, il est cool, il est à l'écran, on va plus lui, toujours.
Il est là pour ça, pour et être toujours, ouais, toujours quoi, comme.
Bon, que le cure-dent.
Qui veut rajouter un mot sur l'IA?
Après, malgré tout, effectivement, le propos n'a rien de nouveau, rien de, voilà, de neuf à apporter en tant que message, mais effectivement, le fait que ce soit de la comédie musicale, même pas forcément très glorieuse de ce point de vue-là.
Parce que c'était, ça pouvait amener l'originalité du truc.
Disons que ça n'est pas à son plein potentiel, mais ça amène quand même un côté un peu original qui fait qu'on n'est pas dans vraiment quelque chose de très noir, de, où on va vraiment montrer à quel point l'entreprise, le capitalisme, tout ça, c'est sale. Il y a un peu ça, mais ça passe bien, c'est... Enfin, bien. Ça passe.
Ils font quand même des belles créations de trombe.
Voilà. Mais le personnage, dans la mesure où le personnage principal lui-même, bon, il est un peu pris pour un idiot, il est un peu manipulé, mais dans la mesure où ces choses-là n'arrivent pas au personnage principal lui-même, il y a moins cette sensation d'acharnement, c'est juste, voilà, c'est les règles.
Pas
les
Puis là, la critique du capitalisme n'est pas non plus...
Elle n'est pas très enfoncée, mais...
Non, ça passe rapidement aux intrigues amoureuses, en fait.
Voilà, ce qui finalement donne moins cette impression d'acharnement qu'on a pu avoir dans certains films récents. Je pense à L'Outsider qui est sorti sur la vie de Jérôme Carviel l'an dernier, où il y a une certaine mode maintenant à taper sur le capitalisme. Effectivement, c'est pas forcément le en chef-d'œuvre, mais au moins il s'est pas enfermé là-dedans dans cet objectif unique, et il a fait autre chose, même si effectivement c'est pas exploité à son plein potentiel.
Ça aurait pu être plus ludique, quoi, avec
Fabien.
Oui, juste je veux juste revenir sur les décors, puisqu'en fait toute la production design du film a été conçue par, j'ai oublié leur nom, mais c'était les deux chefs décorateurs de Wong Kar-wai. Donc c'est pour ça qu'on a cet univers qui est à la fois très surstylisé et en même temps qui tranche avec ce qu'on a pu voir chez Wong Kar-wai. Donc c'est surtout des dispositifs à base de néons et on va dire de poutres métalliques, donc ce qui est assez original.
Et puis c'est le côté open space vraiment qui est poussé au maximum.
Tout à fait, qui va du métro jusqu'au toit.
Jusqu'aux
habitations, en fait. Et justement, ce qui est dingue avec ce film, c'est que Junito arrive à créer des ambiances d'extérieur dans un environnement très fermé. On a à un moment donné une grosse scène dans je crois que c'est dans un bar ou dans une cafétéria où il y a de la pluie qui tombe, et on sent cette vie qu'il y a dans le bar et en même temps à l'extérieur, alors que c'est quand même dans un décor fermé. Il y a aussi une autre séquence où Chow Yun-fat observe la jeune fille alors qu'il est dehors, et on voit des arbres autour. Il y a effectivement une espèce de rue pavée juste devant l'entreprise, alors qu'encore une fois on est dans un environnement très contrôlé. On a l'impression que ce qu'on est en extérieur, parce que la vie est tellement insufflée dans ces séquences là que du coup il arrive à faire ce tour de force technique.
Il y a
technique.
Aussi un passage où on est dans l'appartement d'une employée.
Oui, tout à fait.
Voilà, on a l'impression il y a pas de différence. On voit carrément l'extérieur. Il y a une espèce de baie vitrée.
On
est donné sur la rue. Il n'y a aucune intimité. On a l'impression qu'il n'y a jamais aucun moment où on quitte l'univers professionnel.
On va dire que visuellement, le seul moment où ça tranche, c'est qu'on a un passage où il y a un des personnages qui est en voiture. Et on voit que c'est un passage qui est fait sur fond vert. Mmh. Il maintient cette cohérence esthétique où on voit toujours ce système de fil de fer, de grillage jusque dans le ciel, mais on sent que dès qu'on sort de cet univers très concret du décor, bah ça le film perd un peu de son intérêt, mais c'est, on va dire, 1% du film. Parce que ça reste quand même un modèle de mise en scène purement technique, parce que la caméra est toujours aussi virevoltante et trouve toujours des idées, même au sein d'un genre auquel on n'est plus habitué à le voir, parce qu'il ne faut pas oublier que Junito, avant qu'il soit reconnu pour ses polars, c'était quand même quelqu'un qui faisait du film de super-héros, qui faisait de la comédie, où il avait déjà l'habitude de faire voler sa caméra, sauf que ce film-là, Office, il va vraiment l'assumer. Ce qui n'était pas le cas de ses œuvres, on va dire, pré-The Mission.
Alors après la Chine de Junito avec Office, on va passer au Japon. Si on prend les films dans l'ordre chronologique, on va juste dire un mot sur le film de Sergei Loznitsa, Une femme douce, qui est sorti le 16 août. En fait, on en a dit beaucoup avec Nicolas et Kefren à Cannes, donc écoutez le podcast cannois pour avoir notre avis très positif, sauf Nicolas, sur Une femme douce, mais c'est un des films majeurs cette année à mon avis. Donc on va aller au Japon avec Lumière d'été, qui est un film réalisé par un Français, Jean-Gabriel Perriot. Justin.
Donc, tout d'abord, il faut dire que donc Jean-Emmanuel Perriot...
Gabriel.
Donc, il vient du documentaire, il a réalisé plusieurs documentaires, et ça, c'est sa première fiction, en fait. Donc, ça a son importance, vu que donc, c'est un film qui parle d'Hiroshima et du devoir de mémoire. Et donc, il y a le personnage principal qui est un documentariste japonais qui habite à Paris et qui va partir au Japon pour réaliser un documentaire pour la télévision sur justement le drame d'Hiroshima. Et donc tout le début, on va dire les 20 premières minutes du film, part justement de cette dimension documentaire du réalisateur. Parce que le générique, c'est des photos en plan fixe sur le Japon d'avant la catastrophe et puis d'après. Et ensuite, l'introduction, donc c'est une interview d'une survivante d'Hiroshima. Et donc là, ça dure, il y a 15-20 minutes de plan fixe où la personne raconte son expérience. Donc c'est quand même assez glaçant, vraiment, en plan fixe, dans le moindre détail, les détails les plus glaçants, et on sent la douleur sur le visage du personnage à raconter cela. Donc ça dure 20 minutes, donc c'est le devoir de mémoire dans son côté le plus douloureux qu'on va ressentir dans ces 20 premières minutes. Et après, donc on passe à la pure fiction, où on a ce personnage de documentariste qui va sortir, va quitter le studio, qui va un peu se balader dans la ville, et qui va rencontrer une jeune femme, qui, voilà, ils vont sympathiser, elle va un peu lui raconter à quoi ressemblait le quartier avant la catastrophe. Donc, sans spoiler ni rien, mais voilà, il y a quelque chose qui se joue autour de ce personnage-là de jeune femme. Et donc, en fait, c'est une balade ensuite où on va traverser les différents endroits. On va traverser un port de pêche, on va aller dans un restaurant, on va traverser la ville sous différents aspects. Et pour ressentir ce devoir de mémoire, mais du côté plutôt positif, donc de ce qui reste des traditions de cette cité, des traditions, des coins agréables, des endroits bucoliques, même des personnes, des rencontres qu'on pourra faire. Il y aura une longue rencontre à la fin avec un grand-père et son petit-fils, avec une fête traditionnelle. Donc il y a ces deux facettes qui sont vraiment équilibrées. Donc il y a un côté très très positif, très bienveillant, qui peut rappeler, alors c'est pas forcément des films qui sont en point commun, mais par exemple le dernier Koreeda, Notre petite sœur, il y a ce côté
avant-dernier
où ce moment agréable, voilà, un moment suspendu agréable, avec cette toile de fond, et donc un élément au niveau du scénario intéressant par rapport au personnage féminin, que je ne dirais pas. Et donc voilà, c'est vraiment à découvrir, c'est vraiment une belle découverte à voir encore en ce moment en salle.
Alors je crois qu'il est plus en salle, mais on va espérer une sortie DVD pour pouvoir le rattraper prochainement. Encore en salle, néanmoins, puisque c'est sorti le 23 août, et puis ça semble bien marcher, c'est Néon Chine, de Lu Chan. Lila, Elvire, si je vous laisse la parole.
Lila. Ça fait un changement depuis City of Life and Death, qui était
le précédent film du réalisateur.
Voilà, et qui est aussi le plus connu, je pense, dans ce qu'il a fait. Mais on est sur un documentaire Disney Nature où on va suivre plusieurs animaux iconiques assez de la nature, de la faune chinoise. Alors honnêtement, on sent que dans Né en Chine, ils ont surtout voulu un réalisateur né en Chine. Derrière ça, c'est un film dont la production est intégralement pratiquement américaine, et ça sent un peu. Voilà, après on va suivre principalement donc quelques animaux, un panda, un singe, une panthère des neiges, et je crois, de manière plus ponctuelle, on va suivre également une race de...
T'as les antilopes ?
Oui, voilà, d'antilopes, mais je n'ai pas le nom exact en tête, et des grues, donc voilà, qui sont des figure assez importante, notamment les grues dans la mythologie chinoise. Il y avait un petit propos là-dessus. Ça, c'est un documentaire assez basique qui est adapté à un jeune public. C'est-à-dire que, par exemple, on suit un léopard des neiges, on ne va pas avoir des scènes de prédation qui sont comme on peut les voir si on allume Animal Channel ou autre, on est sur quelque chose qui est édulcoré, qui est fait pour pouvoir être montré à des jeunes et qui est voilà, très scénarisé, comme souvent voilà, le précédent, je crois, film Disney Nature, c'était Au Royaume des Singes, pareil, où il y avait une grosse scénarisation.
Formellement, par exemple, il y a une voix off, comment se
formellement, il y a une voix off, alors c'est assez intéressant, il y a pas mal d'humour, c'est assez dynamique.
La voix off, c'est un narrateur, donc.
C'est un narrateur, oui. Je prends en version française une narratrice.
Je crois que c'est Claire Kane.
C'est Claire
Kane, voilà. La version que nous avons regardée.
Voilà, on a envoyé cette version-là, mais en français, c'est Claire Kane.
Les animaux parlent ou pas?
Les animaux ne parlent pas. C'est uniquement voilà, en commentaire, comme on peut en avoir.
C'est pas ce genre de Disney.
Voilà, non.
On sait jamais.
Non, même si, bon. Parfois, par jeu, pour lui rendre la situation, on essaie un peu de prendre la voix de l'animal, mais non, c'est un narrateur extérieur. Et voilà, ça va être des scènes de la vie de ces animaux à travers printemps, été, automne, hiver et printemps, littéralement. Voilà, 5 saisons qui vont permettre de suivre un peu l'évolution de la vie de ces animaux à travers les différentes épreuves de la nature, avec voilà, un petit lien quand même qui est fait avec la mythologie chinoise, même si bon, vraiment c'est pas très prégnant, mais qui va aussi parler un peu de tout ce qui est réincarnation, etc.
Qui permet aussi de faire passer les événements difficiles un peu plus facilement en fait, auprès des jeunes enfants. Mais non, enfin c'est alors si on regarde le film d'un point de vue formel, c'est plutôt bien foutu. Parce que le montage est très réussi. Ils ont fait, avec le budget, j'imagine que c'est faisable, ils ont fait vraiment un gros boulot pour s'approcher au plus près des animaux, ce qui n'est pas forcément évident. En tout cas, les fauves, il faut quand même réussir à les filmer près. Les paysages de Chine étant somptueux, c'est assez facile aussi de les capter. Enfin voilà, techniquement, le boulot, il est nickel. Après, ça reste un documentaire Disney Nature, donc c'est très didactique. Il y a de l'anthropomorphisme à gogo. Ah bah là, c'est forcément le bébé panda, c'est la maman qui ne veut pas le laisser grandir. Enfin, on arrive vraiment dans des situations de la vie quotidienne des êtres humains, ce qui n'est pas le cas en fait dans la nature. Mais moi, j'ai rien à reprocher en fait à ce documentaire qui est super agréable à regarder. Et qui est bien foutu en fait.
Ça fait le boulot qu'on lui a demandé.
Et techniquement, il y a des scènes qui sont bluffantes en fait. En termes de scénarisation d'attaque, par exemple, de prédateurs en fait. On parlait tout à l'heure de l'attaque de l'aigle sur un bébé singe. La scène, elle est top en fait en termes de montage.
Vous avez conscience que c'est le film sur lequel on dit pratiquement le plus de bien depuis le début de ce podcast.
Mais moi j'ai beaucoup aimé Né en Chine, voilà, je l'assume. Parce que ça essaie pas d'être autre chose que ce que propose Disney Nature en fait.
C'est vrai, c'est pas un chef-d'œuvre, mais ça fait ce qu'on lui demande. Effectivement, on va pas le voir si on a envie de suspense, d'émotion, etc. Il y a un peu d'émotion, et puis elle est relativement bien gérée. Enfin, c'est ce que c'est, ça ment pas sur la marchandise, et il y a un bébé panda qui roule en bas d'une pente. Alors,
il arrête pas de tomber, il arrive pas à marcher, le bébé panda.
Et Dieu sait que ça, c'est puissant quand même.
Et c'est puissant, le bébé panda qui sont là.
Comme machin voilà. Dans Malout.
Ou pas.
C'est pas, même, pas,
c'est
très
pas tout à fait la même chose qui ferait mieux.
Alors, on va passer des animaux chinois aux créatures marines japonaises avec Lou et l'île aux sirènes, le nouveau film de Masaaki Yuasa, qui est sorti le 30 août. Justin, est-ce que tu peux nous présenter le film? Je crois que c'est toi qui as le plus aimé parmi ceux qui l'ont vu. Donc c'est
l'histoire d'un adolescent donc un peu dépressif qui est installé donc dans une région du Japon, donc au bord de la mer.
D'après ado même, hein. Je crois qu'il est au collège.
Oui, ouais. Bon, il a 14 ans.
Un ado, quoi.
Et donc, voilà, qui est un peu déprimé, qui a sa mère, je crois qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années, qui est une star de la chanson. Donc, qu'il n'est plus en contact. Enfin, on apprend qu'elle lui écrit toujours, mais lui souhaite plus en entendre parler. Et donc au début du film, avec deux camarades, donc il y a deux camarades qui lui proposent donc de créer un groupe avec eux. Et donc, lors des répétitions du groupe, on se rend compte qu'ils attirent des chants qui sont possiblement de sirènes, vu qu'il y a toute une légende dans la région autour des sirènes. Donc, il va attirer l'attention d'une sirène qui s'appelle Lou. Et donc, cette sirène, donc, qui est attirée par la musique et qui, il y a un phénomène dès qu'elle entend de la musique, donc ses nageoires deviennent des jambes et elle se met à danser, à chanter. Donc là, c'est une idée visuelle assez intéressante. Donc le film va raconter l'amitié entre le héros et puis Lou, l'acceptation plus ou moins par les habitants de ces créatures, de l'existence de ces créatures sous-marines, de la monstruosité possible de ces créatures. Donc il n'y a rien de nouveau dans le déroulement. Mais par contre, c'est plutôt bien fait, les personnages sont attachants, le personnage de Lou est très attachant. Et puis, il y a l'argument musical qui apporte un peu quelque chose de neuf dans l'utilisation de la musique, le rôle de la musique dans le film. Et puis, formellement, c'est quand même très original. Il y a des séquences en flash, il y a l'utilisation de l'eau, qui est quand même l'élément marin qui est très original. Il y a les designs. Qui change même les personnages humains, le design change quand même de ce qu'on a l'habitude de voir dans des animés classiques. Donc le postulat n'est pas nouveau, ça pourra rappeler d'autres choses comme Ponyo, même si c'est pas un copier-coller, même s'il y a des liens notamment avec les personnages de Lou. Et donc c'est assez prenant, j'avais quand même une belle bonne humeur tout au long du film, et puis visuellement c'est plutôt prenant. Moi j'ai beaucoup apprécié.
Après, le souci c'est que aussi visuellement sont des éléments qu'on retrouvait dans Mind Games, donc du même réalisateur, et qui étaient beaucoup plus expérimentales.
Oui, mais d'après, moi j'ai lu une interview de lui qu'il a fait pour Télérama récemment, et en fait c'est volontaire de sa part parce qu'il a ressenti comme une forme d'incompréhension par rapport à ses pairs ou par rapport au studio avec Mind Game. Donc il a souhaité garder son côté expérimental, mais avec une vraie histoire. Il y a un classicisme au niveau de l'histoire, et l'expérimental vient du visuel, quoi. C'est une volonté de sa part.
Du coup, moi, il y a à la fois une répétition
Game,
du côté...
En fait, le Mind Game, le manga, à la base, est déjà un manga hyper expérimental.
Mais apparemment, il a eu l'impression d'avoir déconcerté pas mal de monde. D'ailleurs, il n'a rien fait depuis... à part faire être directeur d'animation ou sur des projets d'autres personnes, parce qu'il
n'a pas
eu l'opportunité.
Mais du coup, effectivement, dans le déroulement narratif, on a cette impression de déjà-vu, et il n'y a vraiment, vraiment rien de nouveau. Mais quand on a vu Mind Games, on a l'impression d'une redite un peu pour le grand public d'expérimentation qu'il a déjà fait il y a maintenant 10 ans, 15 ans, je ne sais plus de quand.
2004.
2004, ouais, c'est ça.
Mais sans doute, mais le film est quand même... Moi, je suis d'accord avec toi, mais n'empêche que le film est tout à fait agréable à regarder et plutôt sympathique, ça n'empêche pas.
Nicolas ?
Moi, j'en ai déjà parlé au précédent podcast, que j'avais été vraiment déçu, même si il y avait je suis d'accord avec Justin pour dire que visuellement, il y a quand même, même si c'est pas aussi poussé que Mind Game, il y a quand même des choses assez intéressantes. Et on retrouve sa patte forcément, mais... En fait, moi je l'avais vu, je crois que je l'avais vu là, quasiment le même jour, enfin 2-3 jours après, dans un repas du monde, donc qui va sortir.
On y arrive.
Qui va sortir le
6 septembre.
Le 6 septembre.
Qui est sorti.
Et disons que. Oui, donc. Et disons que j'avais tellement été bouleversé par. Dans un coin de ce monde, que le fait de voir Lou après. Qui est quand même assez léger au final, c'est une histoire, comme dit Victor, c'est une classique, c'est une histoire vue revue, il n'y a rien de nouveau, que ça m'a, finalement, je me suis ennuyé devant, parce que il n'y a rien qui m'a appris dans le film, qui, après avoir vu un film tellement bouleversant, comme dans un point de monde...
On y arrive,
voilà.
Juste après, je te laisse la parole,
c'est pour remettre dans le contexte, des fois, que quand tu vois deux films d'animation,
après, tout
il y en a un qui te marque profondément... l'autre qui est peut-être pas forcément au final un mauvais film va te laisser indifférent.
Je dis pas que c'est un chef-d'œuvre ou quoi que, mais franchement j'ai passé un bon moment, et en plus je crois qu'on en avait parlé, moi je l'ai vu dans la salle où j'étais, il y avait deux enfants dans la salle, donc les parents n'avaient pas percuté que le film était en japonais sous-titré français, donc je pense que les deux gamins savaient pas trop lire, donc début de séance ça s'est vu, ils étaient un peu paumés, on les entendait parler parce qu'ils comprenaient pas tout. Et finalement, on voit qu'il a réussi à traduire sa visuellement, parce que au bout de 20 minutes, ne serait-ce que formellement, On a pu entendre les gamins, ils étaient pris par le film parce que voilà, il a réussi à traduire un vrai univers, un foisonnement visuel et qui se raconte par l'image.
J'ai un contre-exemple parce que pareil, il y avait une mère qui avait emmené sa fille qui était en bas âge et du coup elle a parlé pendant tout le film. Donc ça ne marche pas. Et c'est toujours délicat parce que j'avais pas me lever pour dire à.
Tu veux la
c'est pas possible. Mais pourquoi emmener ses enfants voir un film
en VO? En tout cas, ils étaient peut-être pas renseignés, mais en tout cas, j'ai lu, ils étaient deux, ils ont bavardé pendant 15-20 minutes et après, l'histoire se comprend.
Nicolas,
quitte à faire un film foncièrement pop, coloré, énergique, joyeux, tout ça, je trouve qu'il va pas assez loin aussi là-dedans. Aussi. En fait, dans la forme, il y a ce côté-là, mais je trouve que dans le déroulé des événements, il y a trop de creux, trop de sautes de rythme. Pour...
Le film dure près de 2 heures, voilà, enfin quand même, il aurait mérité d'être resserré.
Quitte à faire un vrai truc vraiment énergique, ça manque d'énergie.
Y compris formellement, il y a des idées qui sont intéressantes, mais qui sont répétées 5-6 fois dans le film. En fait.
Il y a la séquence sur la pluie du concert, sur la plage. Ou même il y a la séquence du concert dans l'espèce de chapiteau, là, où on voit que le côté un peu joyeux peut tourner de manière un peu plus oppressante une fois qu'on se rend compte que le contexte n'est pas le même. Donc il y a une répétition, mais qui dans un sens plus négatif.
En fait, le personnage que je trouve le plus intéressant, c'est le personnage du père de Lou, qui apparaît au milieu du...
Donc c'est un monstre marin,
espèce de requin, un peu mythologique, qui se transforme, et je trouve... Son utilisation dans le film est assez intéressante, surtout son apparition en fait. Et là, c'est pareil, il y a un potentiel comique qui aurait pu être beaucoup mieux exploité, qu'on peut observer dans sa première scène, et au final, qui ne va pas plus loin que ça, quoi. C'est dommage.
Je crois que le réalisateur fait une série pour Netflix, justement.
Ah bah.
En 12 ou 13 épisodes.
La boucle est bouclée.
pas tout à fait, puisque Nicolas revient. Tu vas pouvoir nous présenter dans un recoin de ce monde que tu as découvert. Bien et moi, on a déjà parlé.
Moi, j'avais déjà parlé aussi l'autre fois, mais du coup, c'est un film. Donc, c'est déjà pas mal de temps que j'ai, donc il faut que je me remette en. Mais c'est un film qui parle donc d'une jeune femme qui vit dans une ville dans la région de Hiroshima. C'est Nagasaki ou
Hiroshima.
C'est Hiroshima. Et qui, donc, on va la suivre, en fait, pendant près de, au moins 20 ou 30 ans, enfin,
13 ans,
Un peu moins, Ça commence dans les années 30, le gros se joue pendant
15 ans, quoi.
Les années 40-44, et après.
Tout ça pour dire que c'est un film qui va vraiment s'étaler dans le temps, qui va jouer sur les ellipses, et donc on va voir le parcours de cette jeune femme, au départ dans sa famille, qui ensuite va épouser un homme et changer de famille, aller chez ses beaux-parents, donc dans une autre ville de la région de Hiroshima, je ne sais plus.
Mais on s'éloigne en Hiroshima.
Voilà, on s'éloigne en Hiroshima. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, parce qu'on sait, dès le départ où le réalisateur va nous emmener, forcément, c'est la journée du drame.
Est-ce que c'est plus terrible que le tombeau des Lucioles ou des
Ça n'a rien à voir.
C'est pas terrible.
En fait, là où justement le tombeau des Lucioles est quelque chose qui est quand même profondément triste, dans un sens où à la fin tu finis en larmes et c'est ultra sombre. Là, il y a un côté aussi très fort, très marquant, mais du fait de la structure du film en ellipse, c'est vraiment au final comme une chronique. C'est-à-dire que tu as l'événement qui arrive, on y passe du temps, mais il y a la suite, quoi. Le monde ne s'arrête pas, quoi.
Mais est-ce que c'est pas problématique de traiter
non, comme parce que la manière dont c'est traité dans le film, ça reste très fort, mais la vie a continué au Japon, après. Et c'est un peu dans ce sens-là.
Pour le réalisateur, son postulat de départ, c'était que des personnes avaient vécu cet événement, mais qu'elles ne l'avaient pas forcément vécu comme l'événement de leur vie. Parce que elles avaient vécu avant, elles ont vécu après, elles ont une vie quotidienne et que avant que ça arrive en fait, nous on sait que ça va arriver.
Oui.
Le paysan japonais de l'époque en fait, il se dit pas dans 4 ans il va exploser.
Mais après,
Quand même énormément de temps qui se passe avant et après, à moins d'avoir été dans la région, enfin, Hiroshima même et dans la région proche.
Là, il dit que c'est dans la région.
Oui, non, mais c'est dans la région, mais pas suffisamment. Bref, on va pas spoiler.
En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un portrait de toute cette grande région autour de Juin et de ses habitants sur une période donc de 10-15 ans. Et en fait, ce qui l'intéresse, au-delà de...
C'est la petite histoire.
C'est le quotidien, quoi, de tous ces gens-là, pré-guerre mondiale.
Des gens qui n'ont pas forcément été touchés de plein fouet par la
Fabien.
Alors... J'ai pas encore vu le film, mais en fait, c'est adapté d'un manga.
Oui.
Et moi, j'ai lu le manga qui est dans deux tomes, et c'est exactement ce que retranscrit le manga. Ouais. En fait, c'est-à-dire, on suit cette jeune femme toute sa vie, effectivement, tout son parcours de vie, et il se trouve juste qu'Hiroshima, enfin, la bombe, quoi, arrive à un moment donné. Et après, c'est qu'est-ce que tu fais une fois que c'est arrivé? Est-ce que tu continues? Et ce personnage-là, au contraire, ne tombe jamais dans le...
La vie continue, elle est vivante.
Dans le pathos, sa vie est une succession d'événements, une espèce de grande mosaïque, et à un moment donné, il y a ce chapitre noir qui soit interrompt ce qui s'est fait avant, ou soit le continue d'une autre manière.
Il n'y a pas la question existentielle, le personnage n'a pas la question existentielle à un moment donné de se dire « Oh mon Dieu, cette guerre... En fait, le personnage a autre chose à foutre, concrètement.
Ah oui, je...
La guerre est loin de leurs préoccupations quotidiennes, en fait.
C'est pas la préoccupation quotidienne, mais...
Le film est... Le film est très très proche du manga d'ailleurs. C'est un peu condensé. Le film est long, il dure plus de 2 heures, je crois que c'est 2h15, 2h20. Et du coup, il arrive à retranscrire vraiment l'essence du manga avec ses tranches de vie, la durée aussi, puisqu'il y a des scènes qui sont étendues dans le temps. Tout d'un coup, on a des ellipses qui peuvent avoir plusieurs années, parce que l'histoire se répète, et on passe sur des éléments de vie comme ça. Nicolas.
En fait, ce qui est aussi assez bouleversant dans le film, c'est que le personnage principal, donc cette femme, rencontre beaucoup de personnages tout au long de sa vie, et le réalisateur arrive à nous faire poser cette question. Je ne sais pas si c'est comme ça, c'est peut-être sans doute aussi comme ça dans le manga. Arrive à nous faire poser cette question. Ces personnages qu'on va peut-être voir juste une scène, mais qui vont nous marquer, quoi, même deux scènes, et on se pose cette question, mais que sont-ils devenus, en fait, après ce qui s'est passé? Et en fait, même. Le réalisateur arrive en 2 minutes, quoi, peut-être on les voit 2 minutes dans le film, à nous marquer, quoi, avec ces personnages-là qu'on voit pas longtemps, quoi. Et je trouve ça très fort. Par exemple, une scène qui je trouve magnifique, c'est l'héroïne qui se perd. À un moment, elle va au marché pour faire des courses, etc. Et elle se perd dans une espèce de rue qui sont supposées être des rues un peu mal famées, où il y a des prostituées, des machins, tout ça. Et elle rencontre justement une prostituée. Et la prostituée lui raconte qu'elle était fan de dessin comme l'héroïne et une espèce de cette passion commune crée un lien sur une scène qui dure quoi 5 minutes. Et c'est bouleversant parce qu'à un moment, cette héroïne se rappelle, elle se dit mais qu'est-ce qu'elle est devenue, ce personnage-là. Et voilà. Et en fait, ce film est construit comme ça, de petits moments, de petits. Qui, au final, te paraissent rien dans le quotidien de cette jeune femme et qui, au final, prennent de l'ampleur avec le drame qui arrive plus tard. Et je trouve ça très fort.
Voilà, donc dans un coin de ce monde est en salle actuellement. Il faut absolument aller le voir. Je pense que c'est le film asiatique de la rentrée. Et je ne dis pas ça parce qu'il n'y en a pas d'autres ou parce que sur Néon Chine, c'est plutôt sympa. Mais bon, voilà, donc allez voir dans un coin de ce monde. Et puis en cette rentrée, on va être occupé avec l'Étrange Festival qui commence...
Le 6 septembre. Les images jusqu'au 17.
Alors, on va avoir un podcast spécial à l'issue du festival. On va quand même voir les films. Qu'est-ce qu'on peut attendre cette année de l'étrange?
Des grands noms on parle que cinéma asiatique, puisque sinon on y est encore aux 4 heures. Des grands noms du cinéma asiatique, donc le nouveau film de Kurosawa Kiyoshi qui est passé à Cannes, avant une disparition. Kodoku. Meatball Machine de Yoshihiro Nishimura, évidemment du Sonotion, avec Tokyo Vampire Hotel, donc le montage ciné de la série Amazon Japon. Et ensuite, quelques films dont on n'avait pas forcément entendu parler, quelques films asiatiques dont on n'avait pas forcément entendu parler, le film coréen A Day, qui était passé. Le radar. Oui, mais on n'avait pas forcément suivi dès le début. Un film philippin qui s'appelle Purgatorio.
Est-ce que ça vaut
The Villainess, le film coréen The Villainess, qui a ramené beaucoup de monde.
C'est un bon titre aussi.
Et qui fait le tour des festivals.
Ouais. On ne sait pas pourquoi.
Et ben
non, mais il y en a qui aiment.
Voilà, il y en a qui aiment, on pourrait voir. Mon Monsters.
C'est Gidenko.
Voilà.
Taïwan.
Qui avait écrit The Land Monsters l'année dernière.
Oui.
C'est un grand écrivain, Taïwan.
Et puis voilà, d'autres.
De toute façon, on aura un podcast spécial. Est-ce que vous voulez faire un tour de table pour dire votre attente sur l'étrange festival? Parce que je sais qu'ici, il y en a qui ont déjà fait leur planning. Et on va faire une attente, soit Asie, soit hors Asie, puisque Elvire a dit les principaux films asiatiques. Donc voilà. Fabien?
Oui, alors je. Il y a un film que je voulais voir, c'est le dernier film du festival qui est Mutafukaz, qui est la nouvelle production en Kama, il me semble.
Oui,
et je sais que sur ce film-là, il y a eu un animateur japonais très important.
Et c'est le co-réalisé
J'ai oublié le nom malheureusement, mais je sais que c'est un super animateur qui a bossé sur Akira et sur pas mal de...
Shojiro Nishi.
Tout à fait, voilà, qui a bossé sur Akira, merci. Et qui a bossé sur pas mal de films DC Comics aussi. Sur les Batman, Superman, sur genre de les Teen Titans, ce genre de série, donc ça m'intéresse. Et aussi, il y a un autre film japonais, c'est Death Row Family, qui est fait par un jeune réalisateur, qui a l'air assez intéressant, un peu foutraque, mais qui a l'air aussi assez prometteur. Il y a un autre film qui m'intéresse, qui s'appelle Low Life, une espèce de film avec un luchador. Voilà.
Il y a un afro, ce film.
Je sais pas, ça m'intrigue. Voyons, la soirée Beats aussi, ça va être super, rigolo.
Guilard.
En tant que tel, l'étrange festival a toute ma curiosité. Après, eh bien tiens, s'il faut choisir entre Asie ou Eurasie, je vais faire les deux à la fois, puisque notamment je suis intéressée par un film allemand, mais dont la réalisatrice est d'origine taïwanaise. Voilà, qui est Fluido, qui est un film, une sorte de comédie érotique qui, ma foi, m'intrigue pas mal.
C'est censé être une comédie ?
Oui, je crois.
Ah bon ?
Bon, peut-être pas une comédie, potentiellement
une comédie. D'anticipation érotique, effectivement.
Ouf, voilà, comédie d'anticipation érotique.
Expérience collective d'enivrement par le fluide.
Voilà, donc tout est dit. À partir de là, le pitch de base, est très simplement, c'est...
Le fluide.
Le virus
du sida, voilà.
A disparu en 2060.
Ah ben oui.
Et le virus a muté en une substance qui transforme le sperme des porteurs en un médicament aux vertus hallucinogènes qui intéresse beaucoup les industries pharmaceutiques.
Voilà. Donc tout ça m'a l'air d'être fort intriguant. Donc, je vais voir ce que ça donne. Avec un pitch comme ça peut être fantastique ou totalement foiré. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ma curiosité. Les deux à la fois, c'est une possibilité aussi. Voilà. Donc, totalement dans l'esprit de l'étrange festival, du moins.
Nicolas.
moi j'en attends beaucoup parce qu'il y a pas mal de réalisateurs, encore plus que les autres années, des réalisateurs pas vraiment connus, même si on retrouve des têtes de gondole qui ont été un peu portées par l'étrange, genre Ken Evenol qui avait fait
Baskin,
qui était pas terrible d'ailleurs, j'avais
pas compris son succès. C'était bien le début.
Non, il y a pas mal de pitch assez marrants à première lecture qui peuvent être intéressants. Et on sait que à l'étrange, tous les ans, il y a un peu à boire et à manger. Il y a souvent des grosses merdes, il faut le dire quand même.
Mais en même temps,
qui nous
peut voir. C'est déjà bien.
Et du coup, moi, en fait, celui que j'attends, peut-être, c'est pas du tout le film le plus étrange, original, bizarre du CV. C'est le nouveau film de Joachim Trier, Thelma. Parce que déjà, il a des super retours des premières productions.
Puis il revient au niveau de sur le 31 août.
Voilà. Après, oui, son présent film était. Moi, j'avais bien aimé, après, c'était son moins bon film. Mais là, il revient. Pour la première fois, il explore le genre fantastique un peu à la Polanski, machin, tout ça. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ça.
Elle vient ?
Oui, j'ai une petite curiosité, en fait, même s'il y a plein de films que j'ai envie de voir, mais pas que je ne pourrais pas voir. Donc c'est pareil, je vais faire un 2 en 1, c'est pas du tout un film asiatique, mais ça se passe en Asie. C'est un documentaire, c'est Liberation Day. Donc il suit, en fait, les concerts du groupe Sloven Laibar en Corée du Nord. Et j'ai été au courant de ces concerts-là, j'avais été informée, je savais qu'ils avaient fait des concerts en Corée du Nord, mais là, on va enfin pouvoir voir ce que ça a donné dans le cadre d'un documentaire. Donc là, c'est vraiment une curiosité, en fait, de voir à quoi ça ressemble, le concert d'un groupe de musique industrielle à Pyongyang.
Très bien.
Ça tient, en fait, donc.
Elias.
J'ai parlé très très vite fait de Man Man Monsters, parce que Guinness Square est venu très lentement. Man Monsters. The Guinness Square, parce que Man Monsters, c'est quand même pas mal tout l'année dernière. Et sinon, comme on en reparlera dans le prochain podcast, j'ai parlé vite fait de Kuzo aussi, qui est le film de Flying Lotus, qui est un excellent musicien d'électro-expérimental, jazz, un peu rap de temps en temps, et qui est un très bon musicien, qui fait des très bons albums, et qui a toujours eu un petit rapport un peu croisé avec les rougourous japonais, notamment les pochettes dans ses albums, qui étaient signés par Shintaro Kago, qui est un dessinateur des rougourous japonais. Et du coup, son film, en fait, elle a vachement s'inspiré de ça, dans ce côté un peu barjo, prêt à tout, totalement dégueulasse. Il y avait des retours à semaine qui disaient que c'était le film le plus dégueulasse que j'ai vu. Donc ça, je l'ai vu tous les 10 jours.
Ouais, ouais,
les
trois quarts de la salle avec.
Est-ce qu'ils ont quitté parce que c'était nul ou parce que c'était
dégueulasse? Je sais pas.
Et du coup, je sais pas si ça va être très bien, très nul ou totalement on s'en fout. Mais c'est intriguant. J'aime sa musique et ça peut être pas mal. Et du coup, c'est un des films qui m'intéresse le plus.
Kefren?
Moi, concernant l'Asie, c'est. Sous Notion, parce qu'il n'est pas très connu, on ne parle pas beaucoup de lui.
Avant toi.
C'est un auteur qui n'est pas très connu, et tout surtout à Estasia, on ne parle jamais de lui, donc j'aimerais bien faire un petit highlight. Et j'attends la version cinéma de Tokyo Vampire Hotel, donc. Et aussi deux films français par un réalisateur que j'aime beaucoup, qui est F.J. Aussang. Et un autre par Bertrand Mandico, qui est un réalisateur aussi que j'aime beaucoup et que je suis depuis
son premier long, court
métrage. Ouais, c'est son premier long, Les Garçons Sauvages, d'après une de mes sources, sera inspiré par Teruo Ishii, donc je suis très curieux de voir ça.
Mais au Sang, ça va être. J'avais un peu vu son précédent, c'était vraiment spécial.
Il
est complètement perdu.
On en reparle, du coup, dans deux semaines, vous avez le podcast de l'étrange festival où on aura le recap de tout ça. Et la semaine prochaine, on se retrouve avec un podcast spécial Twin Peaks, donc le premier podcast hors série, hors Asie, sur l'œuvre de David Lynch et Mark Frost. See you, Space Cowboys!